Welcome to Conversations and Connections with HBA Canada, the podcast that gives you access to industry leaders and offers valuable insights for career growth. We will be bringing you monthly episodes that include interviews with influential leaders and HBA members from healthcare and the life sciences, where they will offer career insights and key lessons they've learned. We will also be bringing you discussions highlighting essential career topics like networking, mentorship, finance, and more. Our podcast gives HBA members a chance to learn and grow together in their careers and their personal lives. Be part of the conversation as we aim to achieve our goal of getting more women into leadership roles. So don't delay and join us.
Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous accueillir à un épisode captivant de conversation et connexion avec HBA Canada. Pour ceux et celles qui sont nouveaux à notre plateforme, HBA Canada vous offre une passerelle vers des idées novatrices de leaders d'industrie tout en partageant des conseils essentiels pour l'avancement professionnel dans le domaine des sciences de la vie. Je me présente, Fedny Rosemont, et j'aurai l'honneur d'être votre animatrice aujourd'hui. À la jeune dame, un voyage extraordinaire dans le domaine de la mode et de son impact sur la confiance en soi et l'empowerment, terme souvent utilisé pour exprimer l'habilité à prendre sa place ou à exercer son plein pouvoir. À mes côtés, Guylaine Hort, fondatrice de French Sense of Fashion. Elle apporte plus de 20 ans d'expertise dans l'industrie du luxe, offrant des services de styliste personnalisés pour permettre aux femmes de se sentir chic, confortables et en confiance tout en étant soi-même. Donc, au cours de la prochaine demi-heure, nous parcourons ensemble sa carrière remarquable, plus particulièrement sa profonde compréhension du pouvoir de l'image et des vêtements dans un contexte professionnel. Et nous découvrirons quelques trucs pour projeter la confiance voulue et se démarquer. Bienvenue, Guylaine, et merci d'être parmi nous.
Merci beaucoup, Sydney. Je suis enchantée d'être une fois de plus parmi les femmes du HBA Montréal. Je suis très honorée de pouvoir discuter de cette thématique avec vous aujourd'hui.
Super. Pour commencer, Guylaine, pourriez-vous nous partager ce qui vous a inspiré à vous lancer dans un parcours de consultante en image et styliste personnelle?
Alors, oui, c'est assez simple. En fait, c'est un super pouvoir que j'ai hérité de ma mère. Ma mère, je l'ai connue toujours bien habillée. Elle cousait des vêtements. C'est une artiste, ma mère. Elle n'a pas fait de carrière artistique, mais c'est une artiste. Elle sait peindre. Et naturellement, elle sait assembler les couleurs. Et en fait, moi, j'ai eu simplement à la regarder faire. Et je me souviens qu'elle nous cousait des déguisements. Elle nous cousait des vêtements assez élaborés. Et elle était toujours maquillée, voilà. Alors moi, j'ai une façon d'être féminine plus naturelle que ma mère. Je me maquille très peu, par exemple. Mais je tiens vraiment ça d'elle. Et ensuite, j'ai eu des femmes sur mon chemin. J'ai eu deux tantes particulièrement qui étaient assez férues de mode aussi et qui faisaient attention à tout ça. Et je me souviens qu'une de mes tantes, qui s'appelle Catherine, m'avait donné des vêtements qu'elle ne portait plus et j'étais mais dans la caverne d'Ali Baba, j'ai choisi des vêtements, voilà. Et j'ai aussi eu une sœur aînée qui était très solaire, très confiante. Moi, j'étais un peu plus timide. Donc, j'ai eu voilà, des modèles de femmes qui m'ont, sur lesquelles j'ai pu voir différents types de féminité et m'en inspirer, prendre ce que j'avais envie de prendre pour développer mon propre concept, on va dire, mon propre style.
C'est vraiment une belle histoire. Je sens vraiment une entreprise familiale qui a été établie depuis l'enfance. Donc, très beau à entendre. Puis, pour avoir regardé un peu votre site, on pourra mettre, bien entendu, dans les commentaires, votre entreprise et votre approche met l'emphase sur la fusion du confort chic. Donc, comment aidez-vous vos clients à trouver cet équilibre tout en restant fidèles à eux-mêmes?
Alors voilà, mon concept, il est né de l'envie comment dire, moi j'ai mis du temps à trouver ma féminité, j'ai mis du temps à trouver mon style parce que je n'étais pas, j'aimais bien me cacher. Oui, voilà, j'étais pas extravertie. Mais en fait, une fois que je l'ai trouvé, j'ai ressenti ce que ça a comme influence en fait sur les autres femmes. Quand je me suis autorisée moi à avoir cette féminité qui est voilà, plutôt naturel. Enfin, j'ai un côté très chic que j'assume complètement, mais avec ce twist à la française dont on va parler un peu plus tard, je crois. Et quand je voyais l'influence que ça produit, en fait, sur les autres femmes, je vois que ça les autorise elles-mêmes à oser, parce que certaines se reconnaissent en moi. Voilà, il y a des modèles féminins parfois qui sont un petit peu trop difficiles à atteindre parce que c'est des femmes qui sont très, je sais pas, très maquillées, très sophistiquées. Voilà, moi j'ai une féminité qui est plus naturelle et je voyais que ça parlait à beaucoup de collègues, à beaucoup d'amis. Et voilà, moi, alors dans mon accompagnement, c'est vraiment, moi j'écoute les femmes et j'essaie vraiment de leur apporter. Mon envie, c'est de leur faire gagner du temps parce que moi j'étais maman, manager, j'étais toute seule à la maison pendant un moment parce que mon mari était beaucoup en déplacement. Donc, et je travaillais donc pendant près de 20 ans dans l'industrie du luxe. Ça a eu un grand effet sur mon chemin vers trouver mon style parce que c'était un défilé de mode tous les jours. Donc, je me suis mise aussi à plus oser. Et moi, j'écoute les femmes. Moi, vraiment, mon but, c'est de leur faire gagner du temps parce que je sais, je connais la charge mentale. Et mon concept principal, c'est de créer avec elles des silhouettes depuis les boucles d'oreilles jusqu'aux chaussures, en passant par tout le reste entre les deux. Et de construire des silhouettes comme ça, elles savent, elles n'ont pas de temps à réfléchir le matin, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, etc. Je leur fais une silhouette où il y a la veste, le top, le pantalon ou la robe ou la jupe. On fait tout, on prend des photos. Et ensuite, c'est évidemment calé sur différents types de journées. Si on doit aller faire du sport, si on doit aller chercher les enfants. Enfin voilà, sur tout type de femme, je m'adresse pas qu'aux mères parce qu'on a le droit de pas être mère non plus. Je suis très féministe, donc vous allez vous en apercevoir dans mes propos. Donc je m'adresse vraiment à tout type de femme mon but principal, c'est de leur faire comprendre que une femme, c'est la créativité. La féminité, c'est la créativité. Et j'aimerais que les femmes, elles osent reprendre contact avec leur créativité, pardon, pour inspirer les autres femmes. Et je veux que les femmes n'aient plus peur de briller, de montrer leur beauté. La beauté, elle est sous toutes les formes. On peut être à la fois très sophistiquée, mais aussi très naturelle. Donc moi, j'aime pousser les femmes à oser montrer ce qu'elles sont. Pas copier des autres femmes, mais oser révéler leur propre beauté. Parce que moi, j'ai aussi un autre super pouvoir, c'est que je vois la beauté partout. Dans les êtres humains, comme dans la nature, je la vois partout. Donc j'aime faire révéler aux femmes dont je m'occupe leur féminité singulière à elles.
Très belle vision. Et ça me pousse à... En fait, j'ai trop de questions, en fait, par rapport à tout ce que vous avez dit. On va essayer d'y aller peut-être une par une. Premièrement, vous avez parlé de votre concept de chic à la française et comment ça a vraiment influencé votre approche. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur ce concept de chic à la française pour nous tous?
Oui, alors je ne prétendrai pas que je l'incarne parce que ce serait un peu prétentieux, mais en tout cas, je pense que maintenant que je vis sur le continent nord-américain, ce dont je m'aperçois, c'est que je pense que le chic à la française, c'est de peut-être être porter des vêtements assez, qu'on appelle assez des basics, oui. Des choses un peu basiques, mais être chic. Et sans en avoir l'air, en donnant l'impression, je pense que c'est un peu ça, la parisienne ou la femme française chic, elle porte des choses, mais en fait, je pense qu'on y passe un peu de temps, mais sans en avoir l'air, que ça ait l'air naturel et qu'on porte ces vêtements-là. On peut pas, moi, un petit peu, un modèle que j'aime bien citer, parce qu'en plus, elle reste naturelle et que je trouve qu'elle reste accessible, c'est Charlotte Gainsbourg. Elle est toujours très habillée avec des choses très chic, très structurées, mais elle reste naturelle. Et puis, je pense que la femme française, elle n'est pas trop sophistiquée. C'est-à-dire que si elle porte une tenue très pointue, on va dire, avec des choses très structurées dans ses vêtements, elle va être un petit peu moins maquillée.
Oui.
Peut-être que sur le continent nord-américain, quand on est vraiment, on s'habille très chic. On fait un brushing, on est très maquillé, alors que peut-être que le style français, ce serait d'être un peu plus naturel. Voilà, je vois ça comme, je veux pas comparer, mais c'est peut-être ce qui fait un peu le chic à la française, c'est de, d'être chic, mais à la fois rester très naturel. Et puis, je fais comme si on n'avait pas passé des heures à préparer tout ça, ce qui est faux la plupart du temps.
Puis, on jouait tout à fait. Puis, Paris figure quand même parmi les capitales de la mode. Donc, on s'entend qu'on sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis sur les tenues qu'on voit qui sortent justement de cet endroit, en fait. Vous parlez beaucoup des basics, en fait, et que ces basics-là permettent d'avoir un look, d'avoir l'air naturel, mais qu'il y a beaucoup de temps accordé pour créer ce look, je vais dire. Et plutôt, vous avez parlé de votre service de consultation qui est très axé sur les silhouettes pour justement permettre de maximiser son temps puis de pouvoir vaquer à ses autres occupations. Donc, quel est le processus typique, en fait, de votre entreprise et comment accompagnez-vous vraiment vos clients pour combler les divers besoins?
Alors d'abord, il y a un entretien qui prend... Alors moi, j'aime bien prendre du temps pour justement écouter la personne, écouter ses besoins, écouter ses objectifs, comprendre qui elle est et surtout respecter ça. Moi, je ne transforme pas une femme en quelque chose qui n'est plus elle. Donc, je passe vraiment beaucoup de temps à l'écouter d'abord, à écouter quel est son rythme quotidien. Et s'il y a des événements qui sont particuliers, on peut les préparer ensemble, un mariage ou, je ne sais pas, une conférence ou une représentation professionnelle dans laquelle un événement dans lequel elle devrait être particulièrement apprêtée, préparée, etc. Mais ensuite, moi, ce sur lequel je me concentre très rapidement, c'est la morphologie de la personne, parce que de la morphologie de la personne dépend les vêtements qui vont aller le mieux. On ne fait pas porter les mêmes vêtements à une femme qui a des rondeurs, par exemple, plutôt, ou alors des rondeurs au niveau des épaules, qui a, par exemple, qui est très carré au niveau des épaules et qui a un bassin fin. On ne fait pas porter la même silhouette à cette femme-là qu'à une femme qui a des rondeurs partout, qui est pulpeuse, qui a de la poitrine, qui a des hanches, qui a des fesses. Et voilà. Donc, la morphologie, Et moi, j'aime bien montrer par un exemple que quand j'ai le temps, je montre vraiment, je fais porter à une femme exprès tout ce qui ne lui va pas et ensuite, je lui fais porter tout ce qui lui va et ça n'a rien à voir. Enfin, ça change tout. Donc, voilà. Ensuite, ce qui est aussi très important, c'est la colorimétrie. Moi, je propose souvent une séance de colorimétrie parce que c'est pareil, ça change tout. Les couleurs qui vous vont ne sont pas les mêmes sur vous que sur la personne d'à côté, sans parler évidemment des personnes qui sont de couleur, les personnes qui sont rousses, elles ont la peau plus claire, enfin voilà, tout ça c'est tellement important, il faut passer un petit peu de temps là-dessus pour ensuite pouvoir aussi faciliter les choix dans les magasins, c'est-à-dire qu'une fois que vous savez ce qui vous va, vous dirigez vers les bonnes coupes, les bonnes couleurs. Et voilà, moi, c'est vraiment on revient toujours à mon but principal, c'est de faire gagner du temps aux femmes pour qu'elles sachent qu'elles ont ce qu'il faut sur elles, elles sont belles, elles se sont vues. Et oui, un des principes fondamentaux pour moi aussi, c'est de se sentir belle, de se trouver belle. Je n'aime pas comparer les femmes entre elles. Le matin, mon but, c'est que la femme se regarde, elle a mis sa tenue, elle se sent belle et après, elle peut penser à tout le reste. Et ça lui donne la confiance, elle sait qu'elle est parée pour la journée et que... Et aussi, ce concept sur lequel je reviens toujours, c'est que ça inspire les autres, ça leur montre qu'on peut oser porter cette robe rouge si on a envie, parce que si le rouge nous va bien, ben c'est magnifique, ça égaye la journée des gens, enfin... On ne se sent pas de la même façon quand on porte des couleurs que lorsqu'on porte du noir. Le noir, ça peut être très chic. J'adore aussi le noir. C'est très chic. Si on a envie d'être chic aussi et facilement, on met une petite robe noire ou un tailleur noir, c'est parfait. Mais les couleurs ont un pouvoir. Ce n'est pas pour rien qu'on se sent bien quand on regarde le ciel bleu, parce que le bleu apaise. Les vitamines dans les fruits, les oranges, les jaunes, elles ont une couleur particulière parce qu'elles apportent de la vitamine et cette couleur, les couleurs ont un effet. Et ça, j'aime aussi le prouver quand je fais essayer des choses de couleur à mes clients, on se sent différente.
J'adore. Je suis une fan des petites robes noires, mais également des couleurs, pour ceux qui me connaissent. Donc, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire par rapport à la beauté des couleurs dans une garde-robe. J'aimerais, ceci étant dit, élaborer davantage sur le concept de confiance en soi. Vous en avez parlé un peu et on s'entend, c'est primordial au développement personnel, professionnel, etc. Donc, dans votre approche, comment incorporez-vous, en fait, les différences propres à chacun pour vraiment les encourager vers cette confiance en soi?
Alors oui, la confiance en soi, ça me parle beaucoup parce que je vais partager des événements un peu privés, mais c'est important pour moi de le dire parce que j'ai un parcours de résilience. J'ai vécu des traumatismes étant enfant parce qu'en fait, j'ai grandi dans une famille où mon père était bipolaire et ma sœur aînée, qui était très solaire, elle est morte il y a 25 ans, victime d'un féminicide. Donc, autant vous dire que le concept de confiance en soi, je suis légitime pour en parler et je suis légitime pour expliquer ce que c'est de reconstruire sa confiance en soi quand on perd sa sœur victime d'un féminicide et qu'on a eu un père absent parce qu'il était emprisonné dans sa bipolarité. Donc, j'ai un parcours de résilience qui est... je minimise pas, mais je dis toujours qu'on a chacune son histoire et chacune ses... ses traumatismes et ils sont vécus. Mais c'est vrai que je sais de quoi je parle quand je parle de confiance en soi et c'est pour ça que j'ai mis tant à trouver ma féminité parce que j'ai pas eu un père qui m'a dit que j'étais jolie, j'ai eu un père qui ne s'occupait pas de moi, hein. On était trois sœurs, il s'occupait pas de nous, voilà. J'ai dû me construire avec ça, j'ai dû me reconstruire quand ma sœur est morte victime de ce féminicide. Et je tiens à dire, même si c'est parfois très difficile à entendre pour certaines personnes qui peuvent être encore dans la souffrance, c'est que j'ai aussi trouvé une forme de féminité grâce, je pense, au décès de ma sœur. Ce sera un peu long à développer, mais je pense que je me suis autorisée aussi des choses après tout le travail que j'ai fait, évidemment. Ça s'est pas fait, ça s'est fait sur 10 ans, j'ai fait des thérapies, etc. Mais je suis aussi vraiment légitime pour accompagner les femmes et pour vraiment leur dire que prendre soin de sa tenue, pour moi, ça, c'est un premier pas pour prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie parce que tout le travail que j'ai fait m'a mené à cette réflexion, c'est qu'il n'y a personne d'autre que moi qui peut m'aimer aussi bien que moi-même. C'est pas facile tous les jours non plus, hein. Je suis pas en train de me faire passer pour une superwoman. Il y a des jours sans, il y a des jours avec, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que je dois être ma meilleure amie, je dois être capable de me dire que je suis belle, je dois être capable de me trouver belle, je dois être capable de m'aimer parce que, au bout du compte, on est toujours avec soi-même, ne plus être dépendante aussi du regard des autres, quels qu'ils soient, même des gens de ma famille qui m'aiment et qui sont bienveillants. La base, c'est de se comprendre, de s'aimer soi-même et de rayonner parce qu'en rayonnant, on fait du bien aux autres. Et en principal, moi, ce qui m'intéresse, c'est une femme qui rayonne, elle autorise les autres à rayonner, elle donne l'exemple et ça pousse toutes les autres femmes à rayonner.
J'adore. Vous avez partagé quelques moments difficiles, honnêtement, de votre enfance. Merci beaucoup. Très touchant d'entendre ces histoires. On pourra peut-être un jour avoir un autre podcast où on pourra discuter de certains de ces sujets. Dans un contexte plus professionnel, je dirais, pourriez-vous partager un moment mémorable où vous avez vu l'impact transformateur de vos services, en fait, sur un client ou sur une cliente?
Oui, alors pour l'instant, c'est vrai que je m'occupe que de clientes parce que, comme vous l'avez compris, ça me tient à cœur de m'occuper des femmes en priorité. Les hommes, je crois qu'on s'est déjà beaucoup occupés de moi. Donc, voilà. Mais oui, récemment, j'ai eu une cliente qui elle venait de perdre sa maman, d'ailleurs, donc ça m'avait touchée. Et en fait, elle me disait presque à demi-mot, tu sais, j'ose pas, mais j'adore les Santiago. J'adore porter des Santiago, mais j'ose pas au travail parce qu'en fait, elle est dans la finance, on va dire, parce que j'en dis pas trop pour que je veux pas trahir sa confiance, mais Voilà, et en fait, je lui ai montré comment associer des pièces, donc des Santiago, c'est vrai que c'est des chaussures assez stylisées, assez, voilà. Mais on en a trouvé des noires qui étaient dans un très beau cuir, etc., et qui passaient bien. Je lui ai montré que ça passait très bien. Si on associe une pièce très stylisée comme ça, très originale, avec un tailleur assez classique, une coupe de tailleur pantalon, veste assez classique, et ben du coup, elle était... j'ai presque vu une petite fille devant moi qui était tellement contente de pouvoir porter ses Santiago au travail et en fait elle s'est aperçue aussi que ça passait très bien. Moi, j'ai, voilà, comme je vous ai dit, j'ai travaillé pendant 20 ans dans une des plus grosses entreprises de luxe renommée dans le monde entier qui s'appelle Rolex, et je me suis aperçue que quand on ose, parfois on n'ose pas faire des choses, et en fait moi j'ai aussi vu tous les jours des femmes qui avaient parfois des tenues, je me disais waouh, est-ce que moi j'oserais porter ça, mais en fait, et quand on ose, on s'aperçoit qu'on ne reçoit que des compliments. Alors qu'est-ce qu'on attend pour oser porter cette robe rouge, cette robe jaune, ce manteau bleu canard avec du violet, enfin moi vraiment il n'y a rien à craindre si ce n'est recevoir des compliments et faire rayonner sa beauté et inspirer les autres femmes. Donc, n'attendez plus.
C'est un bel exemple de comment rayonner et d'oser être soi-même. C'est un domaine où il y a beaucoup de jugement par moment, ou une perception, je dirais plutôt, de jugement. Quelles sont les perceptions, selon vous, en fait, perceptions qui probablement sont erronées, les plus courantes que vous voyez face au stylisme, et comment vous aider à faire avancer la conversation?
Oui, alors moi, la première, j'avais un regard un petit peu, par exemple, pour être très, très franche et donner un exemple de nouveau un peu personnel, je voyais ma grande sœur un peu comme superficielle parce qu'elle passait beaucoup de temps à se préparer, etc. Et je la jugeais et je disais, oui, wow, oh là là, ceci, voilà. Donc, une des idées fausses, je trouve, sur le stylisme et sur la mode, c'est cette superficialité, ce ne sont que les apparences. Moi, je voudrais juste rajouter deux choses, c'est que l'histoire de la mode, elle remonte à l'Égypte, même à la Grèce, enfin, je ne sais pas où le plus loin on peut remonter, même la Chine. Donc, il y a une histoire des vêtements qui n'étaient pas que des vêtements fonctionnels, qui étaient aussi des vêtements d'apparat. Enfin, si on pense à la civilisation égyptienne, je pense qu'on peut, voilà. Donc, c'est aussi un côté historique. Et puis aussi, quelque chose, moi, que je rappelle très souvent, c'est que votre tenue parle à votre place. Il y a des études, je peux en citer une, on pourrait la mettre en référence, mais avant même que vous ayez ouvert la bouche, les gens se font une idée de vous. Donc, pourquoi ne pas donner la meilleure version de vous-même, puisque cette personne-là va se faire une opinion avant même que vous ayez ouvert la bouche. Donc, le langage non-verbal, il représente, je crois, 90%, j'arrive plus à retrouver le chiffre, mais ça représente plus de 90% de la communication. Donc, avant même que vous ayez dit quoi que ce soit, votre personne, votre tenue, votre attitude parle à votre place. Donc ça... on peut dire que c'est superficiel, ça ne l'est pas. Ça a une importance très, très importante. Donc, voilà. Et de nouveau, moi, je mets vraiment l'accent sur l'authenticité, c'est-à-dire la singularité de chaque personne, comment la mettre en valeur, comment la... Il y a une phrase, je crois que c'est Diane von Furstenberg, qui est une grande créatrice de mode, et qui dit que chaque femme a déjà un style, il suffit de le trouver. On a déjà chacune notre style, il suffit juste de le faire éclore, de le découvrir et ensuite de jouer avec ça. Parce qu'un concept aussi très important pour moi, c'est de rigoler, c'est de jouer avec les vêtements. Et je trouve qu'en tant que femme, on a ce pouvoir incroyable quand même. On a une étendue de choix, de diversité. Alors maintenant, de plus en plus d'hommes, ils portent des bijoux et tout ça, mais jusqu'il n'y a pas longtemps, c'était quand même très féminin. On a un éventail très large de possibilités. Donc, allons-y, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment... Pardon, je suis un petit peu partie sur plein de choses, mais voilà, c'est ce que je voulais dire.
Non, c'est super, en fait, et on pourrait en parler, je crois, pendant des heures et des heures, tellement il y a de sujets associés à la mode, étant donné... comme vous dites, il y a une histoire que vous mentionnez, l'Égypte, la Chine. Chaque génération a vraiment, en fait, influencé la scène de la mode à sa manière. Donc, je remarque, par contre, qu'on est proche de la scène. Donc, pour conclure, peut-être une dernière question. Considérant l'importance grandissante qu'on sait que l'inclusivité a maintenant dans notre société, dans les discussions, etc., quelle tendance prévoyez-vous, vous, Guylaine Horde, pour les prochaines années à venir?
Alors, moi, je me réjouis de voir toute cette... pas que la jeune génération, parce que il y a des acteurs, des chanteurs, je les vois de plus en plus porter des tenues, des robes, des jupes, des choses très extravagantes. Il y a notamment Timothée Chalamet, Jared Leto, j'ai même vu Brad Pitt en jupe. Il arrive à être sexy et toujours aussi viril et masculin. Enfin, voilà. Donc, et particulièrement Timothée Chalamet et Harry Styles, que j'ai vu porter des tenues très féminines, avec des dos nus. Harry Styles, je crois qu'il porte des robes très, très volumineuses. Alors, voilà. Moi, je crois beaucoup dans le domaine du féminisme et de la mode aux hommes alliés. Je pense qu'on n'y arrivera pas sans les hommes. Et je trouve que cette génération, elle me donne beaucoup d'espoir, parce que parfois, dans les mauvais jours où j'ai un petit peu perdu foi en l'humanité, ça me rassure beaucoup de voir cette jeune génération qui se fiche des codes, des genres, et ils cassent tous les codes, ils portent ce qu'ils ont envie de porter. Et je trouve ça, je pense que c'est une tendance qui va perdurer, et ça amène beaucoup de joie et de jeu. Voilà, on ne se prend pas au sérieux, et voilà, je trouve ça super.
En effet, la joie, le jeu, avec tout ce que vous dites, moi je vois en ce moment Timothée Chalamet avec Zendaya et leur tournée qu'ils ont fait ces derniers mois, en fait, et je vois vraiment comment les deux incarnent un peu pour toutes les générations, que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux, parce que tout le monde se connecte d'une certaine façon, soit à leur film ou à eux. Ce côté de rayonner, oui, d'être soi-même, et cette authenticité. Et tout le monde les admire par rapport à ça. Ils sont également... Il y a une belle collaboration, je dirais, avec plusieurs grands créateurs de mode à travers les différents pays. Donc, très beau à voir, et également en lien avec tout ce que vous nous avez raconté aujourd'hui. Oui. Donc, merci. Merci vraiment beaucoup pour tout ce que vous nous avez partagé, pour votre présence aujourd'hui à l'émission. Moi, je retiens bien entendu d'être sa meilleure amie, qui est un point clé dans ce que vous avez mentionné, de rayonner, de ne pas avoir peur des regards des autres, puis tout ça dans un objectif finalement, de prendre soin de soi.
Exactement. Ben, merci, je vois que mon message est très bien passé, je suis ravie. Merci encore à HBA de m'offrir cette opportunité de partager sur des sujets qui me tiennent à cœur, et toujours avec des femmes... que j'apprécie vraiment toutes ces femmes qui m'inspirent aussi, moi. C'est vraiment très, très, oui, c'est vraiment l'empowerment, là, et la sororité sont vraiment, tournent à plein tube, donc je suis contente.
Merci. Merci encore, Guylaine. Merci à vous tous, chers auditeurs, auditrices, d'avoir été à notre écoute. Nous espérons, bien entendu, que vous avez apprécié la discussion, et nous invitons à vous abonner à notre podcast, si ce n'est pas déjà fait, pour rester informé des prochains sujets captivants. Donc, voilà. Prenez bien soin de vous, bien entendu. Et à bientôt pour un autre épisode de Conversation et Connexion avec HBA Canada.